On va commencer avec deux entrevues pour commencer l'émission parce que, bon, les cas d'infection continuent à augmenter. Ça ne provoque pas un tsunami dans les hôpitaux, là. Mais quand même, il y a des signes inquiétants. On va en parler immédiatement avec deux médecins. D'abord, Dr. Normand Blais, qui est hémato-oncologue au CHUM et aussi vice-président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr. Blais, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Dr. Blais, merci d'être avec nous. J'ai vu votre message sur Twitter où vous disiez que vous deviez reprendre des gardes COVID et délaisser vos patients qui ont le cancer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça?
À deux reprises, dans la pandémie, il y a eu des listes de garde qui ont été faites au CHUM puis dans d'autres hôpitaux du Québec pour mobiliser les médecins des hôpitaux qui n'étaient pas des internistes ou qui n'étaient pas des médecins spécialisés en infection pour couvrir le surplus de patients dans les hôpitaux atteints de COVID. Ça implique des cardiologues, des gastro-entérologues, des oncologues, des hémato-oncologues. Donc, plusieurs médecins qui ont d'autres tâches à faire que s'occuper de la COVID, qui doivent délaisser leur clientèle pour s'occuper des patients hospitalisés.
Donnez-nous, s'il vous plaît, Dr. Blais, là, un exemple de ce que ça signifie là, concrètement, humainement, ce que vous appelez délaisser la clientèle.
Mais ça veut dire qu'à tour de rôle, on va être appelé pour laisser nos cliniques, laisser nos listes d'attente pour aller passer une semaine sur un étage de patients atteints de COVID. Donc, il y a un tour de rôle. Donc, la charge est répartie à travers différents médecins, mais ça n'en laisse pas moins que nous, on est déjà utilisés au maximum. Nos listes d'attente sont déjà remplies, puis encore plus que jamais avec le retard accumulé par la COVID, qu'on peut pas vraiment se permettre de passer des journées à l'extérieur de nos cliniques sans laisser de tomber ou laisser de côté nos patients qui sont en attente.
Quel type de mots est-ce que vos patients qui sont atteints de cancer ou qui soupçonnent avoir un cancer ne pourront pas voir être soignés pendant que vous êtes sur un étage COVID?
Bien, c'est plus une question d'attendre encore plus parce que dans les deux grosses phases hospitalières de la COVID qu'on a vécues, les patients ont attendu. On a vu des patients se présenter avec des maladies, des cancers, ça attend pas. Hein? Donc, on a vu des patients avec des cancers beaucoup plus avancés qui étaient trop malades pour pouvoir avoir des traitements. On sait c'est quoi l'impact que ça a apporté. Au cours des trois derniers mois, les choses s'amélioraient un peu. Mais au moment où on pense qu'on commence à voir de l'avant, il y a cette réalité-là d'une autre vague hospitalière qui arrive. Ça, c'est quand même très décourageant.
Je vais vous poser la question que je vais poser à Dr. Joseph Daïn tantôt, qui est médecin intensiviste. Le gouvernement a annoncé là, que si le 15 octobre, on travaille dans le milieu de la santé, privé ou public, et qu'on n'est pas doublement vacciné, c'est la suspension sans solde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez qu'il y a peut-être des effets imprévus à cette mesure-là qu'on voit pas?
Bien, il y a des effets imprévus, mais je suis d'accord pour la raison que moi, particulièrement, je travaille avec des gens à risque, immunosupprimés, qui n'ont pas la chance de d'autres personnes d'avoir une réponse adéquate au vaccin. La grande, grande majorité de mes patients sont vaccinés, ils veulent être protégés, mais compte tenu de leur maladie, de leur traitement, ils ne peuvent pas avoir la protection adéquate. Donc, c'est le rôle des médecins, c'est le rôle des infirmières, c'est le rôle des préposés, c'est le rôle de tous les personnels, de tout le personnel qui supporte ces patients-là, de leur offrir la protection maximale, à mon avis.
Dr. Blais, je vais vous lire, ma messagerie est ouverte, là. Il y a un message qui me parvient de quelqu'un qui écoute l'émission. Je vous préviens, c'est un peu carré, mais j'ai souvent entendu ce message-là depuis 18 mois, et j'aimerais ça que vous expliquiez, fassiez un peu de pédagogie en réponse, OK? Quelqu'un m'écrit « Donc, c'est moins grave laisser mourir les gens qui ont le cancer comparé aux gens qui ont la COVID. » Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Bien, on ne veut pas laisser mourir personne. Donc, moi, premièrement, si je suis appelé à couvrir un étage COVID, je vais le faire. Pas de gaieté de cœur parce que je laisse tomber mes patients avec cancer d'une certaine façon, comme je l'ai expliqué, mais on veut quand même soigner tout le monde. La réalité, c'est que plus les gens vont être vaccinés, plus les gens vont faire attention dans leurs expositions à l'extérieur, mais plus on va pouvoir éviter des situations d'hospitalisation. On sait que le vaccin est très, très, très bon pour éviter les hospitalisations puis les maladies sévères. Donc, c'est vraiment la meilleure façon pour décharger le système hospitalier puis qu'on soit capable de traiter tout le monde adéquatement.
Traduction, si tout le monde était vacciné, vous n'auriez pas à quitter votre unité de cancérologie.
Bien, je pense que ce qu'on voit dans les États-Unis, dans des populations qui sont beaucoup moins vaccinées que nous, nous sert d'exemple qu'au Québec, on est quand même mieux qu'ailleurs, mais il y aurait moyen d'être encore beaucoup mieux.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée.
Bonne journée.
Salut, c'était Dr. Normand Blais, hémato-oncologue au CHUM. Je me tourne maintenant vers un autre médecin, Dr. Joseph Dahin, qui est médecin intensiviste à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Dr. Dahin, salut.
Bonjour.
J'ai vu un autre, vous aussi, j'ai vu un message sur Twitter, Dr. Dahin, où vous faisiez état des statistiques d'hospitalisation en soins intensifs. Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous regardez les soins, les taux d'hospitalisation là, des derniers jours?
Bon, on n'a pas besoin d'être un bolé en mathématiques pour interpréter les chiffres. Ça monte, puis ça monte vite. Quand on regarde les patients hospitalisés aux soins intensifs, dans les 5 derniers jours seulement, il y a 19 patients de plus aux soins intensifs, ça c'est le chiffre net, et avec la capacité du Québec que nous donne le ministère de la Santé et des Services sociaux, ça représente 11%. Donc on est déjà rendu sur tous les soins intensifs possibles réservés pour la COVID, 40% sont occupés. Mais ce qui est encore plus intéressant et je pense significatif, c'est regarder les chiffres bruts en 5 jours. C'est 42 patients qui sont sortis aux soins intensifs, qui sont rentrés, pardon, aux soins intensifs. Il y en a qui sont sortis, c'est pour ça que c'est net juste 19,
oui.
Mais 42 sont rentrés. Ça veut dire qu'il y a 42 Québécois qui, en ce moment, se luttent pour leur survie dans une unité de soins intensifs du Québec, se battent contre la COVID.
OK, docteur, 40% d'occupation aux soins intensifs. Je vais essayer de voir le côté positif des choses, là, puis anticiper certains contre-arguments qu'on pourrait vous servir. Il y a toujours un espace de 60%. C'est quoi le problème?
Ben c'est que cet espace-là, à la vitesse où les hospitalisations montent, va diminuer de plus en plus. Donc ça, c'est l'aspect numéro un, c'est-à-dire que ça sent le délestage à plein nez. C'est que oui, cette capacité-là demeure, mais je vous garantis qu'elle va être épuisée dans les prochaines semaines. C'est garanti, ça monte trop vite. C'est le même film que durant la première, deuxième et troisième vague. Ensuite, ben les COVID luttent ou combattent, se disputent les mêmes ressources que les patients non-COVID. Donc, toutes les autres maladies, les conditions médicales, les conditions chirurgicales qui nécessitent également un lit aux soins intensifs. Donc, les deux groupes, COVID, non-COVID, se disputent les mêmes ressources limitées et ces ressources-là diminuent de plus en plus. Pourquoi? Parce que le personnel diminue de plus en plus. Il n'y a pas de deuxième, troisième ou quatrième trio envoyé sur la glace. Les mêmes médecins, infirmières, préposés, Inalo qui étaient là durant toutes les vagues précédentes, sont de retour, encore une fois, sur les unités de soins intensifs, parfois pour certains d'entre eux, sans avoir pris de vacances encore, à soigner et les COVID et les non-COVID. Et c'est sûr qu'il n'y a pas la même réserve d'énergie qu'il y avait en mars 2020. Là.
Dans votre unité de soins intensifs à la Cité de la Santé à Laval, Dr. Dahin, là, c'est quoi le profil type des gens? D'abord, tu sais, allons-y avec l'âge, puis après ça avec vacciné ou non vacciné.
Donc, 5 patients aux soins intensifs à Cité de la Santé, 14 dans l'hôpital au grand complet. Une proportion où il y a, je dirais, plus de jeunes, donc entre 30 et 60 ans, exceptionnellement, là, quelques personnes un petit peu plus âgées, là, 70 ans. Mais là, je vous dirais à peu près là, 80% des patients là, entre 30 et 60 ans. Et sur les 5 patients aux soins intensifs, aucun d'entre eux n'est complètement vacciné. Dans l'hôpital, je pense qu'il y en a 2 là, qui ont eu leurs 2 doses. Donc, de loin, la population qui se présente pour des soins hospitaliers à cause de la COVID, c'est des patients qui n'ont pas été vaccinés adéquatement.
Dès le 15 octobre, les employés du réseau de la santé qui ne seront pas doublement vaccinés, Dr. Dahin, vont être suspendus sans solde. Est-ce que c'est une mesure qui est accueillie favorablement chez vous?
Oui, c'est sûr que la décision est courageuse parce que c'est une question sensible pour les raisons que l'on connaît. Mais la réalité, c'est que c'est une bonne décision pour 2 raisons. La première, c'est que le virus va trouver le moyen d'infecter les gens vulnérables. Qui est vulnérable, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ces gens-là vont tomber en maladie à un moment donné parce qu'ils vont être infectés par la COVID. Et donc, ça va se traduire par une perte de personnel. Donc, s'ils quittent parce que là, on les oblige à être vaccinés, ben là, au moins, on le sait d'avance, alors que si on les laisse infecter, ben on va savoir le jour même qu'ils ont le malade. Donc ça, d'un point de vue logistique, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, même que ça nous permet de voir venir les absences. D'un point de vue plus déontologique, qui est le deuxième argument qui est super important pour moi, c'est sûr que si tu es dans le domaine et que la raison pour laquelle tu ne te fais pas vacciner, c'est parce que tu ne crois pas en la science, tu ne crois pas en l'expertise des autres, mais tu es en contradiction avec ce qu'on fait au quotidien. Moi, je suis intensiviste. Je vais m'occuper des patients sur un intensif. Mais je les opère pas. Je suis pas chirurgien. Quand j'ai besoin que mes patients bougent, je suis pas physiothérapeute. Je fais confiance à l'expertise du physiothérapeute. Je suis pas immunologue. C'est pas moi qui fais les vaccins. Je fais confiance à l'expertise de ceux qui ont fait en sorte qu'on a un vaccin qui, à l'heure actuelle, a été administré à plus de 5 milliards de personnes, 5 milliards de doses administrées dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que quand on te demande à chaque jour de faire confiance aux expertises de des collègues, là, pour une science qui est prouvée, toi, tu sais la vérité, mais tu ferais pas confiance à ceux dont c'est la job de nous protéger. Donc, pour moi, il y a un conflit ici de valeurs professionnelles qui fait en sorte que pour être un modèle devant nos patients qui, eux, vont vouloir savoir si les gens qui les soignent sont adéquatement vaccinés dans le but de maintenir cette alliance thérapeutique-là. C'est le modèle, le rôle qu'on doit donner dans le réseau de la santé. Donc, pour moi, c'est conséquent à ce moment-là de prendre des mesures envers les gens qui refusent de se vacciner à l'heure actuelle.
Merci, Dr. Dayen. Ne lâchez pas.
Ça fait grand plaisir. Merci.
Salut, bonne journée. Il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est quand même inquiétant qu'avec 75 personnes aux soins intensifs, on met en danger notre système de santé. Écoutez, et là, la personne poursuit en disant, avec le vieillissement de la population, il va y avoir une brisure de notre système de santé. Non, pas vraiment. Parce que, je veux dire, on est capable de prévoir combien de lits dont on va avoir besoin pour les CHSLD, par exemple. On est capable de prédire, il va y avoir combien d'infarctus dans une année. Donc, on peut, par exemple, prévoir, on a besoin de combien de ressources, de lits, de cardiologues, d'infirmières en cardiologie. On peut faire ça. Ce qui n'est pas prévu, c'est les malades qui sont aux soins intensifs qui restent là à cause d'un virus, d'une pandémie. Ça, c'est un angle mort. Après ça, on peut se dire, d'ici 20 ans, l'objectif, c'est d'avoir 3 fois plus de lits de soins intensifs. C'est vrai. Mais maintenant, avec notre capacité et les gens qui deviennent malades et qui ont besoin de soins, qui ont besoin de respirateurs, c'est une situation exceptionnelle. Après ça, le reste de l'hôpital, c'est une autre affaire, on se comprend. Et on peut pas se dire, ouais, mais le système dépend de 50 personnes de plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, c'est un peu décourageant et espérons, on va se croiser les doigts. Il y a de plus en plus de gens, je pense, qui vont aller se faire vacciner et on n'aura peut-être pas besoin d'arriver à la capacité. Parfait. Sujet un peu plus réjouissant, on va aller accueillir notre ami Jérémy Filosa.